qui nous permet de passer au point numéro 2, qui sont des informations au conseil municipal. Alors, on aura trois informations. Peut-être que je peux donner la deuxième, qui est la transmission du planning 2023 des conseils municipaux et des commissions, puisque, du coup, vous avez tout le calendrier qui a été fait pour que tout le monde puisse s'organiser des conseils municipaux et des différentes commissions municipales jusqu'en janvier 2024, ce qui permet d'avoir quand même de la visibilité dans ces affaires. Et je vous propose que Marie Combezil puisse passer à la présentation de la démarche du plan climat communal.
Monsieur le maire, chers collègues, ça marche, c'est bon, c'est rouge, c'est bon. Donc je vais vous présenter ce soir la démarche que nous avons initiée pour élaborer un plan climat au niveau de notre commune d'Ilkirch-Grafenstaden. Nous sommes le 8 décembre aujourd'hui et c'est la journée mondiale du climat, de la lutte contre le réchauffement climatique, devrait-on dire. En tout cas, cette journée est l'occasion de rappeler la menace bien réelle du réchauffement climatique, mais également la nécessité d'agir pour en limiter les effets. Alors, le plan climat, c'est à l'instar, en tout cas, du plan climat national qui existe et du plan climat de l'Eurométropole, nous souhaitons structurer notre action publique au niveau écologique et donc élaborer un plan climat dans les compétences, évidemment, que sont les nôtres au niveau de la commune, avec des actions concrètes à mener pour faire face aux enjeux climatiques. Dans un second temps, alors, puisque je vais vous présenter la démarche, ce plan climat sera élaboré et sera évidemment travaillé en commission. Il y aura une commission spécialement dédiée à l'élaboration du plan climat qui sera convoquée pour début d'année prochaine pour permettre, je le souhaite, une élaboration et une définitive du plan climat au premier trimestre 2023. Ce sont les objectifs. Alors, je rappelle simplement brièvement ce qu'est un plan climat pour tout le monde. Donc, un plan climat, c'est la déclinaison et la mise en application des accords de Paris de la COP 21. Le plan climat national a été, élaboré par Nicolas Hulot et présenté par lui en 2017, alors qu'il était ministre de la transition écologique. Et le plan France Relance en 2020 a réaffirmé les objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2030-2050 également. Quant à l'Eurométropole, elle a élaboré également un document en décembre 2019, un plan climat, le plan climat de l'Eurométropole, donc pour une durée de 6 ans. Et ce plan climat de l'Eurométropole s'articule autour de 4 axes que je vais vous citer. Donc il y a le premier axe, c'est un territoire de bien-être. L'axe 2, c'est un territoire 100% renouvelable et neutre en carbone. Un axe 3, un territoire solidaire en transition économique. Et un axe 4, un territoire qui se donne les moyens d'agir. Alors, le plan climat de la ville que nous souhaitons élaborer s'inscrira pleinement dans ces 4 grands axes du plan climat de l'Eurométropole. Et dans ces 4 grands axes, nous avons identifié d'ores et déjà 13 thématiques, 13 pistes, 13 actions que nous souhaitons mener pour lutter contre le réchauffement climatique au sein de notre ville. Donc je vais vous les lire et vous les donner. Commençons d'abord par l'axe 1, qui, je le rappelle, donc, comprend en tout cas et s'intitule « Un territoire désirable qui allie bien-être, résilience et adaptation au changement climatique ». Et sont identifiées là 3 actions et 3 démarches à mener. La première, c'est favoriser le développement des mobilités douces et durables. La deuxième, un urbanisme maîtrisé et adapté aux enjeux. Une troisième démarche, c'est végétaliser pour mieux respirer. Donc voilà pour l'axe 1 et les 3 démarches et les 3 pistes d'action. Poursuivons par l'axe 2, donc qui est le territoire 100% renouvelable et neutre en carbone. Donc là, également trois démarches qui seront initiées. La première, c'est rénover le patrimoine bâti. La deuxième, c'est moderniser notre éclairage public. La troisième, développer les énergies renouvelables. Voilà pour l'axe 2. Poursuivons par l'axe 3. Donc, c'est un territoire solidaire en transition économique et écologique qui comprend donc 4 démarches et 4 actions possibles que nous souhaitons mener. La première, c'est préserver nos ressources énergétiques. La deuxième, c'est de créer une ferme urbaine pour nourrir notre territoire. La troisième, c'est valoriser et réduire nos déchets. Et la quatrième, consommer mieux pour limiter le gaspillage. Voilà pour l'axe 3. Et enfin, l'axe 4, c'est un territoire qui se donne les moyens d'agir, évidemment. Donc, la première action concrète, c'est la charte verte pour mobiliser tous les acteurs du territoire. Elle est déjà en place. La deuxième action, c'est une ville exemplaire, notamment au travers de la norme qui existe déjà, ISO 14001, les quatre fleurs. Et enfin, une treizième action, c'est un budget dédié pour se donner les moyens d'agir. Voilà donc pour les quatre axes et pour les 13 items et thématiques dans ces quatre axes qui seront travailler ensemble en commission pour une élaboration finale de ce plan climat pour notre ville.
Merci, Madame Combezil. Oui, j'allais demander s'il y avait des prises de parole. Madame Longchal, sinon c'est Madame Longchal, je vous en prie.
Madame Combezil a fait à peu près la même présentation en plus ramassé que ce qui nous a été fait en commission développement durable. Et donc, il nous avait été annoncé que nous recevrions les projets de fiches très rapidement et qu'on nous proposerait une date de réunion aussi très rapidement. Donc, nous n'avons rien. Voilà. Et deuxième remarque, c'est nous vous avions plusieurs fois demandé un bilan de la charte verte. Et donc, là aussi, nous sommes en attente.
Au sein de la charte verte, on vous a dit effectivement en commission qu'on ferait un point et on aura une restitution pour vous lors de la prochaine commission.
Voilà, en tous les cas, le but de ce plan climat, encore une fois, c'est bien de pouvoir déterminer dans un document cadre les différentes avancées en matière de transition énergétique, transition écologique au niveau de la ville d'Ilkirch-Grafenstaden, en grande partie sur les compétences de la ville d'Ilkirch-Grafenstaden. Bien évidemment que c'est complémentaire à tous les plans climat qui existent, notamment celui de l'Eurométropole, que l'Eurométropole a un certain nombre de compétences aussi qu'elle doit exercer et qu'on ne peut pas exercer à sa place. Je pense notamment à la politique en matière de déchets et de collecte des déchets, avec notamment les biodéchets qui seront déployés en 2025 à Ilkirch-Grafenstaden, puisqu'il y a eu un programme qui a été fait pour les différentes communes avec un déploiement progressif, donc on pourra en bénéficier. C'est aussi le cas pour les bornes électriques, pour les voitures électriques, où aujourd'hui, c'est l'Eurométropole et on va dire qu'on voit bien qu'on accuse un retard sur ce sujet-là, puisqu'il y a deux bornes qui ont été installées, mais qui n'ont pas été encore raccordées. Et il y a une troisième borne qui sera installée en face du bâtiment entre Huron et le Centril, donc sur le parking un petit peu central, où vous avez aussi la boîte aux lettres. Et donc là aussi, on attend la mise en œuvre de cette borne-là, puisqu'on avait déjà le droit à 3 bornes. Et l'année prochaine, il y aura 2 bornes supplémentaires qui seront installées. Mais donc voilà, il y a pas mal de politiques sur lesquelles il y a besoin de travailler avec les autres collectivités. Néanmoins, beaucoup de choses qui sont inscrites aussi au plan climat sont déjà engagées, ont déjà été réalisées pour certaines. On voit quand même que sur des végétalisations, on avance et on a maintenant un planning vraiment clair sur les cours d'école jusqu'à la fin du mandat. Donc toutes les cours d'école seront concernées. On va pouvoir commencer les travaux sur le Forum de Lille aussi pour végétaliser le Forum de Lille, puisque ça, c'est un des objectifs. On est en train de travailler aussi sur l'éclairage public pour pouvoir faire un contrat de performance énergétique sur l'éclairage public, puisque c'est un dispositif qui nous permettrait de remplacer 100% de l'éclairage public sur 100% des candélabres. Au lieu de le faire sur plusieurs années, on pourrait le faire tout à fait l'année prochaine, à partir du mois de juin, le temps de mettre en œuvre ce contrat de performance énergétique. Mais par là, on pourrait avoir un vrai gain par rapport à ce qui était prévu au départ, d'étaler année après année et de finalement remettre à plat tout notre éclairage public dès l'année prochaine, dans tous les quartiers de la ville, dans les zones d'activité aussi, sachant aussi que nous allons récupérer l'éclairage public du parc d'innovation, hein, puisque vous savez que jusqu'à présent, le parc d'innovation n'avait pas encore transmis son éclairage public, alors que c'est de la compétence municipale et que jusqu'à présent, c'était encore la CERS qui le gérait. Donc, on va récupérer 100% de l'éclairage public, ce qui nous permettra aussi de pouvoir le gérer comme on le gère ailleurs, c'est-à-dire d'éteindre un peu de quelques candélabres, parce que c'est vrai que c'est plein phare au parc d'innovation toutes les nuits. Et on va récupérer aussi les espaces verts au parc d'innovation. Donc voilà, il y aura aussi un travail supplémentaire à faire. Mais voilà, on avance sur ces sujets-là. Je pense qu'on avance bien sous l'égide de Marie Combézil, que je remercie sur ce travail. Et je sais que ça lui tient à cœur, qu'elle le fait très sérieusement et que nous pourrons arriver à la fin du mandat à avoir des réalisations concrètes et un vrai chemin qui aura été pris sur la transition. Et ça devient vraiment nécessaire. Ce qui me permet de faire la transition toute trouvée sur le point numéro 3, il s'agit des annonces par la préfecture sur les coupures temporaires. Donc, vous avez tous entendu parler de ces coupures temporaires qui nous pendent au nez, hein, puisque une vingtaine de réacteurs nucléaires sur les 56 que compte la France sont aujourd'hui à l'arrêt par des nécessités notamment d'entretien. Donc, c'est vrai que ça ne tombe un petit peu mal. Vous avez vu aussi d'ailleurs que contextuellement, il y a certaines centrales à charbon comme celle qui est juste à côté de chez nous en Moselle qui a été réactivée ces derniers jours. Et donc ça montre quand même l'état de la fourniture électrique. Et donc nous avons eu une réunion lundi matin avec la préfecture et madame la préfète et tous les différents acteurs de l'énergie pour pouvoir avoir connaissance du plan. Et on souhaitait vous faire la restitution lors du conseil municipal puisque ça doit intéresser fortement nos concitoyens. Donc déjà, pour préparer le dispositif, on aura un premier test national qui aura lieu dans la journée de demain. Donc il y aura des coupures qui seront effectuées à différents endroits de France pour tester un certain nombre d'éléments de sécurité, notamment tout ce qui est onduleur, générateur de secours, pour voir si ça tient en cas de coupure. Et nous aurons des tests départementaux, donc au niveau du département du Bas-Rhin, le 15 et 16 décembre, pour voir aussi également sur le territoire du Bas-Rhin si tout fonctionne correctement, si tout est prêt à pouvoir survivre au choc. Donc comment se passe le signalement d'une ligne sous tension et justement comment ça va se passer concrètement? Donc en fait, les coupures auront lieu entre 8h et 13h et 18h et 20h, si elles doivent avoir lieu. Donc ça, c'est les plages horaires qui ont été données très précisément par l'État. Donc 8h, 13h, 18h, 20h. Il s'agit de coupures de 2 heures maximum. Donc ça ne sera pas plus que 2 heures pour éviter aussi d'impacter trop fortement nos concitoyens et notamment tous les organes de la maison qui peuvent nécessiter de l'électricité. On pense notamment aux denrées alimentaires qui peuvent être stockées. Et donc une coupure de 2 heures est normalement faisable sans casse. Donc on aura une alerte qui arrivera la veille à 17h. Et alors, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que de 17h à 21h, on peut avoir des ajustements des zones de coupure. Donc, en fait, à 17h, on aura grosso modo la zone dans laquelle ça devrait être coupé. Et à 21h, on aura finalement la confirmation des zones qui seront effectivement coupées. Sachant que jusqu'à 6h du matin le lendemain, les choses peuvent évoluer, mais alors là, dans ce cas-là, les choses de 21h à 6h, les choses peuvent évoluer positivement, c'est-à-dire supprimer certaines zones qui auraient dû être coupées. Bien évidemment, quand les adresses partagent leur ligne électrique avec un hôpital, un commissariat, une gendarmerie, une caserne de pompiers ou un site militaire, ils ne seront pas concernés puisque c'est des lignes qui ne seront pas coupées. La difficulté, vous en doutez, c'est que comme c'est des lignes qui seront coupées électriquement, du coup, ce n'est pas forcément des quartiers ou des choses tout à fait territorialement naturelles. C'est des gens qui sont reliés à une ligne électrique de fourniture. Donc ça, ça peut surprendre aussi. En tous les cas, les citoyens sont invités à télécharger l'application EcoWatt pour pouvoir prendre connaissance des cartes, puisque les cartes sont également publiques la veille. Et donc, on sera bien évidemment au courant du risque de coupure qui pourra intervenir le lendemain. On a demandé, suite à ça, au directeur général des services de pouvoir monter une réunion avec les différents directeurs de services pour pouvoir travailler sur les dispositifs plus concrets au niveau des différents services de la ville. Vous vous doutez bien que un des éléments les plus compliqués pour nous, c'est la gestion des écoles, puisque forcément, quand on est dans une école, la coupure d'électricité est problématique. Et le gouvernement ne souhaite pas que les zones concernées par des délestages aient des écoles ouvertes pour pas qu'il y ait des écoles qui se retrouvent sans électricité ou sans chauffage au moment de la coupure. Donc ça veut dire que si la coupure a lieu entre 8h et 13h, les écoles resteront fermées le matin. Il y aura néanmoins un accueil qui va être organisé pour les personnels prioritaires. Donc on est aussi en train de travailler avec les services pour pouvoir mettre ce dispositif en place. Mais c'est un petit peu sur le principe de la Covid à l'époque, où il y avait eu pendant la période de fermeture des écoles où tout était fermé. Pendant les confinements, il y avait quand même toujours un accueil minimum qui était assuré. Mais on va essayer de travailler justement sur comment faire pour alerter correctement les parents. Mais c'est quelque chose qui commence à devenir habituel, puisqu'on a eu deux ans de Covid où c'était aussi une gestion protocole après protocole avec des changements. Donc je pense qu'on y arrivera. Le risque aussi, alors peut-être qu'on a moins chez nous parce qu'on a une densité d'antennes relais qui est un peu plus importante, même si on peut avoir des coupures sur les antennes relais. En fait, les antennes relais tiennent, grosso modo, les batteries qui sont sur les antennes relais tiennent 30 minutes. Et donc, sur une coupure de 2 heures, c'est vrai qu'il y a un petit décalage. Donc, c'est pour ça que le gouvernement invite à utiliser le numéro d'urgence, le 112, puisque le 112 est captable par tout opérateur, alors que le numéro 15, 18 ou 17 sont des numéros qui passent par la ligne de votre opérateur. Et si vous n'avez plus votre opérateur, il ne le trouve pas. Et bien évidemment, vous savez que sans électricité, il n'y a pas d'Internet à domicile. Et donc, toutes les personnes qui sont aujourd'hui à des offres de téléphone qui sont connectées à la fibre optique ou à la DSL verront leur ligne coupée. Donc, il faut prendre l'habitude d'utiliser son téléphone portable et d'appeler le 112. Néanmoins, il y a aussi tout un travail qui est en train d'être mené pour que dans différents lieux d'urgence, type caserne des pompiers, commissariat, il y ait de l'accueil d'urgence qui soit effectué pour que si jamais les gens pouvaient ne pas pouvoir joindre les secours, ils puissent quand même se rendre dans un office de proximité pour pouvoir trouver quand même des personnels qui soient postés et qui soient prêts à leur rendre secours ou en tout cas à contacter les autres urgences. Vous vous doutez bien aussi que ça risque d'avoir des incidences sur les moyens de transport. Donc tout un travail va être mené aussi avec la CTS et les différentes autorités organisatrices des mobilités, puisque dans ces cas-là, si une coupure devait arriver, peut-être que le tram pourrait être impacté, peut-être que le train ne pourrait pas rouler non plus. Donc ça a quand même un certain nombre d'impacts qu'il faut bien voir. Et tout un travail est en train d'être mené aussi avec l'Agence régionale de santé concernant les personnes hospitalisées à domicile, puisque aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des soins à domicile et des appareils qui nécessitent de l'électricité à domicile. Donc ce travail est en train d'être mené. Ils doivent revenir vers nous s'il y avait des choses particulières à mettre en œuvre. Mais en tous les cas, voilà. Sachant que normalement, on ne devrait pas avoir de coupure avant le mois de janvier, si ça devait intervenir. Donc ça nous laisse quand même jusqu'à fin décembre pour préparer tous les dispositifs. Mais on souhaitait quand même pouvoir vous donner ces informations et les expliciter parce qu'on les a, vous avez pu les voir ou les lire dans les différents médias. C'est vrai qu'on n'a pas toujours toutes les informations. Là, il s'agit d'informations qu'on tient de la réunion qu'on a pu avoir avec la préfecture pour pouvoir préparer. Et je pense que tout le monde s'y prépare, mais qu'on arrivera à passer comme d'habitude cette période de crise tous ensemble et à faire des gestes qui nous permettent d'améliorer le quotidien. Néanmoins, il faut quand même voir que sur le dernier rapport intermédiaire, puisque toutes les semaines, on a un rapport intermédiaire sur la situation de l'énergie en France, on a quand même noté une baisse de 6% de la consommation électrique des Français. Donc on sent quand même que les appels à la sobriété, à faire un certain nombre de gestes, ont quand même leur utilité. Après, je pense qu'on ne peut pas aller au-delà d'un certain seuil parce que les gros consommateurs restent souvent aussi plutôt des grosses industries, certains secteurs qui ont besoin d'électricité et de fortes tensions électriques pour pouvoir fonctionner. Mais voilà, on va continuer à surveiller ça.